France Inter, franceinter.com.
La Saint-Fraisse.
Valéry Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand, 49,1%.
Ans d'histoire. Rarement une élection présidentielle n'a réservé autant de surprises que celle de 1974, à commencer par la date à laquelle elle a eu lieu, 2 ans avant l'échéance prévue, puisqu'elle a été provoquée par la mort du président de la République en exercice, Georges Pompidou. Et comme, selon la Constitution, un président doit être élu au plus tard dans les 35 jours qui suivent la fin du mandat de son prédécesseur, la campagne présidentielle de 1974 fut la plus courte de toute l'histoire de la Ve République. Si bien qu'une semaine après la mort de Georges Pompidou, les Français connaissaient déjà le nom des principaux candidats à sa succession.
Les titres de l'actualité. UDR, soutien total à Chaban-Delmas après le comité central de ce matin. Giscard d'Estaing, oui ou non? Réponse demain midi à Chamalières où le ministre des Finances est parti prendre quelques heures de réflexion avant d'annoncer sa décision. La gauche, apparemment pas de problème. Candidature de François Mitterrand annoncée sans doute demain après-midi à l'issue d'un congrès extraordinaire du Parti Socialiste. Sondage IFOP publié demain par Le Point. Pour les électeurs de la majorité, le candidat le mieux placé est Jacques Chaban-Delmas.
Jean-François Cirinelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po. Alors, ce n'est pas le candidat le mieux placé en avril 1974 qui gagnera l'élection présidentielle, mais avec Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, Jacques Chaban-Delmas était en effet un des 3 principaux candidats à l'Élysée, après, je l'ai dit, la mort de Georges Pompidou, qui a fait de cette campagne d'abord une élection prématurée et de cette campagne la plus courte de l'histoire de la Ve République.
Tout à fait, c'est une campagne singulière, une campagne dont il faut dire, vous venez de le rappeler, que ça a été une campagne très courte et une campagne de surcroît qui a pris les principaux protagonistes au dépourvu. Car naturellement, depuis à peu près un an, on savait que le président Pompidou était très malade, mais nul n'aurait pu prévoir cette fin brutale, même si physiquement il portait déjà les stigmates d'une maladie très grave. Et donc, non seulement ça va être court, mais personne n'est prévenu quelques heures avant qu'il faut se mettre dans les starting blocks. Donc à tous égards, c'est une sorte d'élection chimiquement pure, comme élection surprise en quelque sorte.
Se mettre dans les starting blocks et démarrer à toute allure le plus vite possible, ça même nuit un petit peu au premier candidat à se déclarer. Il n'attend pas longtemps puisque c'est le jour des obsèques de Georges Pompidou, 2 jours après sa mort, que le premier candidat se manifeste. Il est assez pressé, c'est Jacques Chaban-Delmas. En effet, d'ailleurs, comme on l'a entendu, le mieux placé dans les sondages.
Tout à fait. Le président Pompidou, il faut le rappeler, est mort le 2 avril. Nous sommes à mardi. Le jeudi a lieu la cérémonie des obsèques et c'est dans le même après-midi qu'a lieu l'annonce, enfin qu'intervient l'annonce de la candidature de Jacques Chaban-Delmas. Ça lui sera naturellement, reproché. En même temps, on va sans doute y venir. Il est obligé d'aller vite lui aussi, même si on le pousse à la faute en allant aussi vite, parce qu'il y a une sorte de, par-delà la force de l'UDR, par-delà l'apparence légitimité du candidat, il y a une sorte de surenchère entre plusieurs personnages dans la quête du personnage central qui représentera l'UDR.
Alors, vous avez dit l'UDR, Jean-François Cirinelli, il faut rappeler que c'est le parti gaulliste à l'époque. Les gaullistes sont au pouvoir depuis le général de Gaulle, puis avec Georges Pompidou. Jacques Chaban-Delmas en est un peu l'héritier naturel à la tête de cette formation, l'Union pour la Défense de la République. C'était le nom du RPR plus tard.
Tout à fait, deux ans plus tard, en 1976.
Donc c'était l'UDR. Il en est un peu d'ailleurs le chef naturel, s'il faut rappeler. C'est un gaulliste historique, grand résistant, général dans la résistance, participant à la libération de Paris. Ancien aussi Premier ministre de Georges Pompidou.
Oui, il a une double légitimité, vous venez de le dire. D'une part, c'est ce qu'on appelait à l'époque un des barons du gaullisme, une des grandes figures dont la légitimité est ou se tient, plancher Racine dans la résistance. Le deuxième élément de légitimité, c'est qu'il est Premier ministre, non pas sortant, ce qui lui donne d'ailleurs beaucoup plus de force, puisque le Premier ministre, au moment du décès du président, c'est Pierre Messmer, mais il a été le Premier ministre, entre 69 et juillet 72, le Premier ministre de la nouvelle société.
Alors, il est le candidat de l'UDR, la principale formation de la majorité. Il y en a une autre, les Républicains indépendants, dont le patron est Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui va faire connaître, lui, qui va annoncer, lui, son village d'Auvergne, de Chamalières, sa candidature, 3 jours après celle de Jacques Chaban-Delmas, que l'on entend ici le 7 avril 1974.
Je viens de dire à mes amis de l'UDR que je compte sur leur appui dans la campagne électorale qui s'ouvre. C'est le peuple tout entier qui tranche, comme le veulent justement les institutions de la Ve République.
Il y a moins d'une semaine, disparaissait le président Georges Pompidou. Je m'adresse à vous, aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République.
Alors la candidature de Valéry Giscard d'Estaing, Jean-François Sirinelli, ce n'est pas non plus une surprise. Hein. Il y a longtemps qu'on connaissait ses ambitions pour devenir président.
Tout à fait. Il est jeune, 48 ans, mais il a déjà tout un passé politique en tant que ministre des Finances à plusieurs reprises, et notamment ministre des Finances du gouvernement sortant. Mais déjà en 69, la question s'était posée pour lui. Devait-il être déjà candidat? En définitive, il décide de passer son tour. C'est Georges Pompidou qui est élu et c'est Alain Poher qui représente le centre à cette époque. En revanche, effectivement, il se prépare déjà depuis plusieurs années dans la perspective, il faut le rappeler, de 76. Donc lui aussi est pris au dépourvu, mais en même temps, son ambition
76
est forte.
Qui aurait dû être l'élection.
L'échéance normale, voilà, en quelque
si Georges
sorte,
Pompidou hein. n'était pas mort entre-temps.
Mais il y a, effectivement, on lui prête à cette époque depuis plusieurs années l'intention, cette fois-ci, d'y aller. Donc ça n'est pas une surprise. Mais il a un handicap. Il a un handicap, c'est qu'il apparaît aux yeux des gaullistes, qui sont, il faut le rappeler, la principale force politique à cette époque, hein, comme l'homme qui a contribué au non au général de Gaulle en 69. Donc ça, c'est compliqué. Si c'est lui qui est au second tour, on n'en sait rien pour l'instant, il aura à rassembler les gaullistes sur son nom. Et là, il y a un réel handicap.
Alors, il faut rappeler que donc il y a un deuxième candidat de la majorité. Il y en a même un troisième, Jean Royer, qui sera candidat. Bref, on assiste au fond à une campagne au cours de laquelle la droite est extrêmement divisée, alors qu'en revanche, la gauche est rassemblée derrière un homme, le même d'ailleurs qu'en 1965, c'est François Mitterrand, Jean-François Sirinelli.
Oui, là, on est dans une configuration qui est pour la gauche doublement porteuse. Premier élément, 2 ans plus tôt, le 27 juin 72, il y a eu la signature du programme commun de gouvernement. Et le résultat, deuxième étape, c'est que le Parti communiste français décide, vous le disiez, comme en 65, de soutenir un candidat unique.
De ne pas se présenter, donc il n'a pas de candidat PC.
Absolument,
à l'époque, oui.
Un candidat unique qui sera donc François Mitterrand, vous l'avez dit. Et donc là, deuxième atout, en 73, l'année précédente, aux élections législatives, ce programme commun de gouvernement, cette gauche unie, comme on dit à l'époque, elle ne l'emporte pas, mais elle a le vent en poupe. Oui. Donc on est dans une phase ascendante, si vous voulez, hein, incontestablement.
Et avec un François Mitterrand qui est à la tête d'un nouveau parti socialiste, d'ailleurs, après le congrès d'Épinay, il y a adhéré d'ailleurs au moment où il en prenait la tête. Donc c'est vraiment un candidat, il n'y a pratiquement rien à gauche en dehors de François Mitterrand, à part 2 candidats trotskistes qui sont Alain Krivine et Arlette Laguiller pour la première fois. Oui. Donc une alliance qui est risquée d'ailleurs, parce que l'alliance avec les communistes, puisque au fond, si elle apporte des voix à François Mitterrand, elle sert à Valéry Giscard d'Estaing à effrayer l'électorat en brandissant l'épouvantail communiste. On écoute François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing le 24 avril 1974.
Je suis le candidat de la gauche. Je m'engage sur les orientations du programme commun. Je cherche par ces orientations à dessiner, comme je le peux, le choix de société qui nous engage tous. Et je me bats pour cela avec vous.
L'adversaire dans cette campagne, c'est le candidat du programme commun du collectivisme autoritaire en France. Il n'y en a pas d'autre. Face à ce candidat sur lequel nous gagnerons le 19 mai prochain, il est essentiel de rassembler une large majorité nouvelle. Et c'est pourquoi je veux être dans cette campagne le candidat de l'unité nouvelle de la majorité.
Alors, le candidat de l'unité de la majorité, disait Valéry Giscard d'Estaing le 24 avril 1974, cette formule Jean-François Cirinelli n'est pas du tout innocente, car en réalité, elle veut dire implicitement que l'autre candidat, Jacques Chaban-Delmas, ne peut pas unifier la majorité. Et là, il faut parler d'une opération qui a été extravagante, absolument ahurissante, très importante, notamment pour l'homme qui en est à l'origine, qui est à peine connu, ou qui n'était pas très connu à l'époque, c'est Jacques Chirac qui va au fond desservir le candidat de son parti, Jacques Chaban-Delmas, et favoriser Valéry Giscard d'Estaing.
Tout à fait. Vous l'avez dit en commençant, nous sommes, il faut que vos auditeurs aient bien en tête, on est dans un laps de temps très bref. C'est une pièce qui se joue rapidement. C'est une pièce à trois personnages. Il n'y a que deux places pour le second tour. Et donc le problème, c'est le problème à droite. Et le problème à droite, c'est qui des deux, alors qu'on a entendu tout à l'heure que Le Point, au début, annonce dans le premier sondage de la campagne que Jacques Chaban-Delmas est largement en tête dans ces sondages, qui des deux candidats de droite sera présent au second tour. Et c'est là qu'intervient ce à quoi vous faisiez allusion, c'est-à-dire que l'opération montée essentiellement par Jacques Chirac. Alors cette opération, il faut bien voir que Jacques Chirac a les moyens institutionnels de la montée, car il est ministre de l'Intérieur. Il a d'ailleurs été placé là lors d'un remaniement récent, pas du tout dans la perspective de 74, mais dans la perspective de 76. C'est l'un des hommes proches de Georges Pompidou. Georges Pompidou n'est plus là. Et donc, à cet égard, il y a deux choses qui jouent. Il y a d'abord un contentieux historique entre Jacques Chaban-Delmas et une partie de la garde rapprochée de Georges Pompidou, et notamment Marie-France Garraud et Pierre Juillet. Et d'une certaine façon, Jacques Chirac est dans la même sphère. Mais l'autre aspect, c'est qu'il va parvenir, parce que à cette époque, il faut le préciser, vous l'avez dit, le candidat officiel, c'est Jacques Chaban-Delmas. Donc il faut essayer, si vous voulez, de le décrédibiliser. Comment on va faire? On arrive à... Jacques Chirac parvient à obtenir de 42 parlementaires de l'UDR, et avec lui ça fait 43, un appel qui se contente, si j'ose dire, de déplorer la division dans le camp de la majorité. Mais les phrases sont ainsi tournées que tout le monde perçoit que, en fait, le fauteur de division, c'est Jacques Chaban-Delmas. Donc c'est implicitement une prise d'opposition pour Valéry Giscard d'Estaing.
Et alors, une prise d'opposition, comme vous dites, qui va faire s'effondrer dans les sondages Jacques Chaban-Delmas, qui va passer de 30% d'intention de vote au début du mois d'avril, un mois plus tard, à 15% à peine. Ce sera le résultat du premier tour. Les sondages ne sont pas trompés, sauf que en temps réel, ils ont montré un effondrement de Chaban, d'une part à cause de ce qu'il a appelé la trahison de Jacques Chirac, mais aussi parce qu'il ne fait pas une très bonne campagne.
Oui, là aussi, il faut que vos auditeurs aient bien en tête que c'est un cas inédit dans l'histoire de la Ve République qu'une telle inversion du rapport de force, on l'a dit, moins de 35 jours. En 35 jours, c'est-à-dire qu'on part, on va dire, de 30-15, 30 pour Chaban, 15 pour Valéry Giscard d'Estaing, et à l'arrivée, ça sera 15 pour Jacques Chaban-Delmas et 33 pour Valéry Giscard d'Estaing. Alors, vous disiez, quelles sont les causes ? Probablement, le fameux appel des 43 a joué. Ça n'est pas la seule cause. On peut dire, sans trahir, sans tordre la réalité historique, que, vous le disiez à l'instant, Jacques Chaban-Delmas n'a pas fait une très bonne campagne pour toute une série de raisons.
On ne passe pas bien à la télévision. Il y a eu un discours d'André Malraux qui était pathétique, parce qu'André Malraux, ne voulant pas le soutenir, il avait dit qu'il ne ferait plus de politique. Il vient finalement le soutenir, mais il le fait très mal en parlant de l'école, sans jamais soutenir explicitement.
C'est ça. Pour les gens appartenant à ma génération, effectivement, ils ont encore en tête, même si ça remonte à 33 ans, le passage d'André Malraux, figure historique du Gaullisme, qui passe lors l'un des spots télévisés de la campagne officielle, et donc à un moment où on ne peut pas l'interrompre, en quelque sorte, ce n'est pas du direct, mais on a une prise en quasi-direct. Et effectivement, il part dans un grand discours sur l'informatique à l'école, et Jacques Chaban-Delmas écrira ensuite dans un de ses ouvrages qu'il sentait au fil des minutes le nombre de voix qu'il était en train de perdre.
Et ça, à la veille d'une élection à laquelle se présentent d'autres candidats que les trois que nous avons cités, Jean-François Sirinelli. Il y en avait au total 12. Un record, d'ailleurs, on n'a jamais vu ça jusqu'en 2002. Alors certains faisant même leur début dans une compétition à laquelle ils allaient prendre goût, comme Arlette Laguiller, un des deux candidats trotskistes à l'élection présidentielle de 1974 avec Alain Krivine.
Vous pouvez gémir, et vous gémirez encore, bureaucrate de tout acabit, car désormais, une nouvelle génération révolutionnaire est née en France et dans tous les pays du monde.
Travailleuses, travailleurs,
elles sont innombrables, les femmes, que scandalise la situation qui leur est faite dans cette société.
Monsieur Le Pen, donc vous êtes un candidat de droite, et vous êtes aussi opposé au gaullisme qu'au communisme.
Exactement. Je suis la troisième solution. Je suis le candidat d'une droite qui est sociale, populaire et nationale.
Une candidature marginale sérieuse. Voilà comment on pourrait qualifier la candidature de René Dumont aux élections présidentielles.
Je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars, elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là?
Pierre Vassiliou, en 1974, peut-être inspiré par René Dumont, premier candidat écologiste, il faut le rappeler, dans une élection présidentielle, Jean-François Sirinelli. Il y a d'autres nouveautés, Arlette Laguiller qui se présente pour la première, mais pas pour la dernière fois, et Jean-Marie Le Pen, première candidature de Jean-Marie Le Pen, avec un résultat très médiocre d'ailleurs.
Oui, deux remarques sur Jean-Marie Le Pen. Vous l'avez dit, première candidature, résultat très médiocre, 0,75%, moins de 1%, ce qui nous montre qu'à l'époque, l'extrême droite est dans une configuration d'étiage. Il faut jamais oublier qu'à peine 10 ans plus tard exactement, aux européennes de 84, ils se retrouveront à 10%. Donc là, il faut vraiment mesurer l'unité de temps. Et deuxième élément, il peut être candidat, comme un certain nombre d'autres petits candidats. À l'époque, c'est un petit candidat, à cause des 100 signatures seulement, alors qu'en 81, on passera à 500. Et du coup, il ne faut jamais l'oublier, Jean-Marie Le Pen ne pourra pas être candidat en 1981.
Oui, c'est en 1976 qu'on est passé de 100 à 500 signatures pour limiter le nombre des candidats. Alors, cela dit, la vraie surprise de 1974, eh bien, c'est le résultat de Jacques Chaban-Delmas qui ne recueille que 15% des voix au premier tour. Derrière, Valéry Giscard d'Estaing, 33%. François Mitterrand, 43%. Les seuls donc qui restent en lice au deuxième tour. Et dans ce premier face-à-face télévisé qui est devenu un rituel de toutes les présidentielles, et au cours duquel, répondant à François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing allait trouver les mots grâce auxquels, dit-on, il a gagné l'élection présidentielle du 19 mai.
On sait bien que ce sont les forces politiques et syndicales qui se sont rassemblées derrière moi et que c'est ma candidature et mon programme d'action qui permettront demain à la France d'engager la grande aventure, l'admirable aventure, non seulement de la réussite économique, mais aussi du progrès social. C'est là tout notre débat.
Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas.
Sûrement pas.
J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat à sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres.
Le monopole du cœur, si on se souvient d'une formule pendant cette campagne de 74, Jean-François Sirinelli, c'est bien celle-là. Et elle a été sacrément efficace.
Tout à fait. Alors d'abord, effectivement, Valéry Giscard d'Estaing est présent au second tour. Il faut insister quand même, c'est déjà une première forme d'alternance. Vous l'avez dit tout à l'heure, les gaullistes étaient au pouvoir depuis 58, 16 années. Et d'un seul coup, c'est la droite libérale qui bat le candidat gaulliste. Et donc, c'est une première forme d'alternance, mais qui a moins frappé les esprits, parce qu'elle est endogène à la majorité de l'époque. Deuxième chose, vous l'avez dit, ce qui reste présent dans les mémoires, c'est ce débat entre les deux tours. Et cette formule qui fait choc, c'est-à-dire, vous n'avez pas le monopole du corps. Alors, c'est intéressant parce que dans ses témoignages, depuis dans les colloques, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing dit « Je l'ai improvisé ». Bon, faisons-lui confiance, on n'en est pas sûr, parce que c'est le genre de formule quand même qu'on cisèle, mais enfin, qu'il l'ait improvisée ou pas, elle fera mouche. D'autant qu'elle était doublée d'une seconde formule, hein, qui est « Vous êtes un homme du passé ».
Voilà, il joue sur son âge, il a 48 ans, 10 ans de moins que François Mitterrand.
Tout à fait.
Et il joue sur son âge, sauf que François Mitterrand, 7 ans plus tard, lui dira « Vous êtes l'homme du passif,
Tout à fait.
Mais ça a été très important. Vraiment, il a vraiment le sens de la formule. Il a fait une très belle campagne, il faut bien le dire.
Absolument. Il faut remarquer, alors, restons quand même sur la formule une seconde, pour signaler qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas le mesurer, le quantifier, hein, si cette formule a eu une importance ou pas, sauf que nous avons
Mitterrand
entendu...
Mitterrand l'a dit, il a dit « Vous m'avez battu grâce à cette formule ».
Lors du débat,
l'a dit après, oui.
C'est vrai, et surtout que 400 000, c'est-à-dire en fait, il suffit d'un déplacement de 200 000 et on peut partir de l'hypothèse que quand même, ça a apporté ses fruits. Mais d'une façon générale, on ne sait pas ce qu'il en est de l'influence de la télévision en pareil cas.
Oui, parce que vous dites 400 000, c'est l'écart qui a séparé au deuxième tour les deux candidats qui restaient donc pour le deuxième tour. Au fond, c'est extrêmement serré. Je rappelle, j'ai donné les chiffres, que Valéry Giscard d'Estaing ne part pas du tout gagnant. Il a 33% au premier tour, 43% pour François Mitterrand, qui peut espérer l'apport des voix d'extrême-gauche et également de certains centristes qui étaient également candidats à la présidentielle. Donc ça s'est joué d'ailleurs à très peu de choses, à si peu de choses que la veille du deuxième tour, personne ne savait qui allait l'emporter le 19 mai 1974.
20h, la Saint-Fraisse.
Valéry Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand, 49,1%.
La France a choisi son président. Vous m'avez désigné vous-même pour exercer cette fonction. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Vous ne serez pas déçus. Je sais que de ce jour date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France.
Alors une ère nouvelle, ça aussi on l'a retenu cette formule, le jour même de sa victoire, Valéry Giscard d'Estaing parlant d'une ère nouvelle, de changement, c'est vrai d'ailleurs qu'ils se sont produits.
Oui, il y a deux mots essentiels, changement et rajeunissement. Dans les deux cas, c'est un discours qui porte. Il porte d'abord parce que rajeunissement, ce président a moins de 50 ans, il nomme dans la foulée un Premier ministre de 42 ans, Jacques Chirac.
Oui, alors justement, on en parlera dans une seconde, mais c'est un point de départ pour Jacques Chirac, 74 aussi.
Tout à fait. Mais en même temps, si vous voulez, cette jeunesse succède au long proconsulat du général de Gaulle, qui a marqué naturellement notre histoire nationale, mais qui était d'un âge avancé, y compris en fonction, et un président sortant, qui est sorti, si j'ose dire, pardonnez cette mauvaise expression, par la maladie. Donc, un homme âgé, puis un homme malade, et d'un seul coup, un homme jeune. Le contraste est saisissant.
Oui.
Et le deuxième élément, c'est le changement. Effectivement, il a placé sa campagne sous le signe du changement. Et le changement, c'est notamment que les gaullistes sont
battus. Un changement quand même contrarié par une crise qui venait à peine de commencer, qui lui a sans doute coûté un deuxième septennat, puisqu'en 80, il est battu. Jacques Chirac devient son Premier ministre. Au fond, c'est peut-être le salaire, entre guillemets, de la trahison. Non, est-ce que c'est pas parce que cet appel des 43 a aidé Giscard que Giscard l'a nommé Premier ministre avant que lui-même se dresse contre Giscard en quittant l'hôtel Matignon un peu plus tard.
Alors, essayons d'abord d'examiner en historien, c'est-à-dire en objectivité, pourquoi Jacques Chirac a fait cet appel des 43. Sa thèse, c'est que Jacques Chaban-Delmas, qui était en train de faire une mauvaise campagne, aurait été battu par François Mitterrand. Donc, si vous voulez, dans sa logique, il dit, bon, mais dans le fond, j'ai préservé les intérêts de mon camp,
le meilleur défenseur.
La deuxième chose, ce sont les intérêts du gaullisme. Et de son point de vue, il défend le gaullisme en laissant la présence de la droite au pouvoir. Alors, pour autant, est-ce la récompense de la trahison, si vous voulez? Là, c'est un jugement de valeur, je veux dire, auquel on peut adhérer ou pas. Reste que c'est vrai, c'est ce qui frappera l'opinion. L'appel des 43, quelques semaines plus tard, il est Premier ministre, si vous voulez. Donc, c'est à ce moment-là, l'image, en tout cas, d'un personnage un peu byzantin, pour faire vite, ou florentin. Mais florentin, c'est ce que disait Mauriac de François Mitterrand, donc je ne peux pas reprendre la même expression, qui commencera à coller à la peau de Jacques Chirac, d'autant que 7 ans plus tard, c'est un Valéry Giscard d'Estaing qu'il contribuera à faire battre.
Alors justement, et à faire battre contre François Mitterrand. En 1965, on l'a évoqué la semaine dernière, François Mitterrand est battu, mais il a mis en ballottage de Gaulle, il s'est fait connaître comme adversaire unique, enfin candidat unique de la gauche. Donc battu, il est content. Là, il était à 2 doigts, il était à 400 000 voix. On pensait qu'il pouvait très bien être élu. Il est battu, là il est très amer, il va commencer à être contesté, hein, pour être archaïque par Michel Rocard notamment. Et pourtant, c'est le même homme qui, 7 ans plus tard, va se retrouver en face de Valéry Giscard d'Estaing, hein, c'est la revanche, le battre. Et alors, chose extraordinaire, il va gagner l'élection de 81 alors qu'il n'y a plus d'union de la gauche. Le Parti communiste aura un candidat en 81.
Ah oui, oui, vous venez d'utiliser deux fois le mot extraordinaire et à juste titre. Il a montré, François Mitterrand, une capacité de rebond et de tactique extraordinaire, hein, qui fait que, alors qu'il partait sur des bases bien plus compliquées en 81, d'une part, vous l'avez dit, l'union de la gauche n'existe plus, il y a un candidat communiste, et d'autre part, il est contesté, en tout cas à partir de 78, de la défaite de la gauche aux législatives de 78, enfin je dis de la défaite de la non-victoire, dans son propre camp, par quelqu'un qui, à nouveau, a 10 ans de moins que lui, si vous voulez. Donc, double handicap et il gagne. Mais revenons aussi au gagnant de 74, Valéry Giscard d'Estaing, car lui, vous l'avez dit, il arrive dans une configuration de changement, de jeunesse, mais il arrive en même temps que la crise économique. Moi, j'ai publié récemment un livre où je parle des 20 décisives. Au cœur de ces 20 décisives, il y a d'un seul coup, dans cette métamorphose extraordinaire de la France, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la crise économique. Et donc, Valéry Giscard d'Estaing aura à gérer en premier lieu les effets de la crise.
Les 20 décisives, en effet, c'est un livre passionnant que vous avez écrit, Jean-François Cirinelli, chez Fayard, donc il vient de sortir chez Fayard, et où il est question, entre autres, de cette élection de 1974. Je rappelle que vous êtes aussi avec Serge Berstein, l'auteur chez Armand Collin d'un livre, Les années Giscard. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation et archivina Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Sophie Gillery. Une réalisation de Anne Kobilac. La semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, nous vous proposons 3 rediffusions. Lundi, le chocolat. Mardi, le vote des femmes. Mercredi, Ernest Hemingway. Puis nous nous retrouverons en direct dès jeudi avec un général qui a fait trembler la Troisième République, le général Boulanger. Et enfin, vendredi, la suite de notre série spéciale présidentielle en partenariat avec Le Monde 2, hors série consacrée à l'Élysée, l'élection présidentielle de 1981. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.